Alors d'abord, je voudrais qu'on fasse le cours Leilou Nishmat Violette Tamar Bat Gracia, que Ezrat Hashem, par le mérite des paroles qu'on va dire et le mérite de Rabbi Israël, que ce soir c'est Saïloula, alors que son âme elle s'élève Ezrat Hashem et qu'elle puisse se balader dans le palais du Mashiach Ezrat Hashem, si Dieu veut. Alors, ce soir, c'est la Hiloula de Rabbi Israël, Ber Odesser. C'est un très grand jour. Et je me suis dit, j'aimerais qu'on parle d'une chose. Des fois, on oublie ça. Rabbi Israël n'était pas un Breslev à la base, c'était un chassid Karlin, et qui habitait à Tibériade. Et il nous raconte que, toujours à Israël, il disait combien c'était quelqu'un de pieux, bien sûr, de très pieux, mais combien à chaque fois il recherchait Akadosh Baruch Hu, il recherchait. C'est-à-dire, même s'il avait contact avec des très très grands tzadikim, des mamages, des skenim, ce qu'on appelle des personnes âgées dans la Torah, et il allait y rechercher le Emet, et il allait en fait pour rechercher quelque chose qui allait apaiser son âme, parce qu'à la finale, on est tous quelque part, d'accord, souvent chacun à son niveau bien sûr, mais on est tous quelque part perturbés, parce que on a des interrogations, parce qu'on aspire à quelque chose, et ça ne vient pas comme on veut, et donc on cherche toujours, d'accord, à trouver un apaisement quelque part pour pouvoir avancer et servir Hachem. Et Rabbi Israël, combien qu'il était un homme depuis sa plus tendre enfance, alors je vous renvoie à deux livres aujourd'hui, bien sûr chez Ma Israël, qui va vous donner un aperçu de la grandeur de qui était Rabbi Israël et comment il s'est rapproché de Rabbeinu. Et un autre livre, Bémet, qu'on n'a jamais parlé, qui s'appelle « Lirot Beibéa Nachal ». C'est un livre, Bémet, qui raconte des discussions et des histoires qu'on a pu vivre avec Rabbi Israël, ça veut dire contemporaine, avec nous, les Chavérim à l'époque. Bon. Et c'est vraiment, chaque parole là-bas, c'est extraordinaire. Dire, et il y en a là, on en a amené.
Qu'il était de cette génération.
Oui, il était de. Oui, il était de. C'est un contemporain, Rabbi Israël. Ça veut dire là. Tu vois, il était là, on l'a connu. Et en fait, dans le livre de Lirot Beibéa Nachal, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont ils ont départagé le livre en fait par sujet. D'accord. Donc il y a notoriété, c'est les considérations, études. Sur le Likouté de Philote, les livres de Rabbeinu, la nourriture. Sur chaque sujet que vous cherchez, vous avez des discussions, d'accord, et des paroles de Rabbi Israël. Donc, je vous envoie vraiment vers ce livre qui est vraiment très beau. Mais quand même, il y a un livre dont on ne parle pas assez souvent, et pourtant, d'accord, c'est le livre qui a rendu Rabbi Israël Kardouner et Rabbi Israël Ber Odesser, d'accord, qui a reçu le Pétek, c'est le livre qui l'a rendu Breslev. C'est-à-dire, il faut se dire, mais attends, quelqu'un d'aussi géant que Rabbi Israël, qui lisait tout, il lisait tout ce qu'il avait sous la main, toutes les prières, tout ce que tu veux, il a trouvé une espèce de livre. Bien sûr, pas beau comme celui-là, bien évidemment, la couverture était enlevée, il était dans un sale état, il était jeté, d'accord, dans une gniza, et Rabbi Israël, il l'a trouvé, et il a commencé à lire, et ça lui a complètement parlé, ça veut dire, il était comme un dingue, à tel point qu'il a appris, d'accord, ce livre par cœur, parce que quand on a voulu le lui arracher, parce qu'à l'époque, Breslev, c'était interdit et qu'il ne fallait pas. Il était tout jeune, il avait quoi je ne sais pas, Hanan, quel âge il pouvait avoir?
Je
ne
sais pas, il avait moins de
13 ans. Moins de 13 ans, 14 ans, comme ça. C'était un petit jeune, d'accord.
Il
n'avait
pas rencontré
Rabbi Israël, il n'était pas marié. Donc oui, 13 ans, 14 ans, comme ça, tu vois. Mais bien évidemment, c'était pas nous à 13 ans, 14 ans, c'était oui. des géants et toute leur vie, il a passé dans comment se rapprocher d'Hachem, comment servir Hachem. Et Rabbi Israël, il était toujours, toujours en recherche. Comment servir mieux Hachem? Comment répondre à mes questions? Comment apaiser? Enfin, c'était quelque chose d'incroyable. Et en fait, il a trouvé donc ce fameux livre qui s'appelle Ishtaprut Anefesh, l'épanchement de l'âme. Et en lisant ce livre, d'accord, Rabbi Israël, ben, il s'est complètement... sa vie, elle s'est transformée parce que dans ce livre, d'accord, qui n'est pas si grand à la finale, parce que dans, vous voyez, dans ce livre-là qu'on a, il y a Ishtaprut Anefesh, il y a l'épanchement de l'âme et il y a le réconfort de l'âme. Donc c'est tout petit à la finale, il n'y a pas grand-chose, mais chaque parole, chaque mot, c'est de la dynamite. Et c'est ça qui a fait que Rabbi Israël... Il s'est rapproché, il s'est complètement enflammé pour Rabbeinu et que toute sa vie, elle a changé. Toute sa vie, toute son optique, toute sa manière de voir les choses, à tel point, d'accord, Rabbi Israël, il s'est tellement annulé à Rabbeinu, il s'est tellement, il a plus existé, c'est-à-dire qu'il n'y avait que Rabbeinu, il n'y avait rien d'autre. Comment ? Il a découvert, justement, on va y arriver, par ce livre, il a découvert, donc, Bevada et Lidbo des doutes, qui est le fait de parler avec Akadosh Baruch Hu et le plus haut degré du service divin. D'accord ? Et surtout, il faut comprendre que grâce à ce livre et ensuite à tout ce qu'il a, sa manière de se rapprocher d'Hachem et comment il s'est annulé à Rabbeinu, il s'est complètement inclus dans le souffle du tzaddik, à tel point que quand le tzaddik, d'accord, à un moment donné, il lui a envoyé donc le pétek, d'accord, ce fameux pétek. Et Rabbeinu, il lui a dit, mon cher élève, ça veut dire Rabbeinu, il n'a pas dit ça sur tout le monde. C'est sur toi que j'ai dit. Ça veut dire Rabbeinu, il l'a complètement imbriqué en lui. Et lui, c'est tellement annulé qu'il est rentré dans le souffle du tzaddik à tel point qu'il dit, je suis Nanar Nachman Nachman Meuman. Après, bon, il faut beaucoup étudier, beaucoup prier, bémettre pour comprendre tout ça. Mais bien sûr, ben, ne serait-ce que Rabbi Nathan, mais chacun il avait son rôle, tu comprends ? C'est sûr, il y avait Rabbi Israël Kardouner, il y avait Rabbi Moshe Breslaver, il y avait Rabbi Nathan encore une fois, ça veut dire c'était des vivants et on en passe.
Il a quand même été désigné du vivant de Rabbeinu.
Nachon, mais en tout cas c'est pas sur lui, la dernière Torah de Rabbeinu qu'on a reçue, c'est le Pétek. Et cette Torah, c'est ce qui va rester jusqu'à... D'accord, que Mashiach, il va se dévoiler dans le monde. Mais à travers cette Torah de Rabbeinu, qui est le Pétek, à la finale, Rabbeinu, il nous donne des enseignements et il lui dit, c'est sur toi que j'ai dit. D'accord ? Maintenant, il faut comprendre que tout Rabbi Israël, très difficile d'expliquer, de parler de Rabbi Israël, parce que c'était tellement quelqu'un qui était humble, il cherchait tellement pas à briller, et que toute sa vie, en réalité, c'était uniquement pour rapprocher, d'accord, des âmes du tzaddik et les ramener chez le tzaddik. À aucun moment, il a cherché ni à devenir un rébé, ni à briller ou à devenir quelqu'un. Il n'était rien, il ne voulait être rien. Et tout, c'était que le rapprochement vers Rabbeinu, Rabbeinu, Rabbeinu. À aucun moment, Rabbi Israël a existé, en fait. Et c'est ça, toute sa grandeur. Et c'est pour ça que même jusqu'à maintenant... Il est très, très, très difficile d'expliquer qui était Rabbi Israël. Même, il se cachait même de sa propre famille, de son propre entourage. Alors, bien sûr que celui qui a connu Rabbi Israël, et je ne parle pas de nous, que nous, on est les Haverim de l'époque, on est rien. Pour nous, c'est sûr, c'était un géant. Mais je parle même des personnes, d'accord, des Israéliens, des gens qui ont connu Rabbi Israël, même quand il était encore un jeune homme ou quand il était un père de famille, enfin quelqu'un de jeune, on va dire, d'accord, il est évident que, et personne ne pourra contester ça, que toute personne qui a connu ou qui a approché Rabbi Israël, de près ou de loin, pourra dire, d'accord, que Rabbi Israël était un tzaddik. Ça, il n'y a même pas de discussion là-dessus. Personne, tu n'entendras jamais dire que Rabbi Israël n'était pas un tzaddik, parce que Bémet, que il fait partie de ces rares personnes qui, depuis le début jusqu'à la fin, son nom n'a pas été entaché par aucune histoire. Ni une histoire, Chas v'Shalom, de mauvaises mœurs, ni une histoire d'argent. On sait souvent que quand on rentre, d'accord, dans le pouvoir, et le kavod et qu'il y a l'argent qui tourne, on sait que des fois, Chas v'Shalom, il peut y avoir comme ça toutes sortes d'embrouilles. Et Baruch HaShem, Baruch HaShem, Rabbi Israël, il n'y a jamais eu une sorte d'embrouille. L'amrot que je répète, non seulement Rabbi Israël était un homme qui était très riche, mais pas seulement ça. Celui qui s'occupe, c'est-à-dire aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe avec la Fatsa, le fait de distribuer des livres encore et de les atpis, ça veut dire d'imprimer des livres, on ne peut pas s'imaginer à quel point tout ça c'est enrichissant et à quel point le Keren, d'accord, c'est une source de bracha dans le monde. On ne peut pas s'imaginer, personne ne peut imaginer ce que c'est. Parce que Rabbeinu, il a dit que tout celui qui va s'occuper, d'accord, et Rabbi Israël, il a continué là-dessus, bien sûr, que tout celui qui s'occupera de l'impression des livres de Rabbeinu, de près ou de loin, pas de ses livres à lui, des adaptations à lui, ça veut dire on pourrait tous maintenant prendre des idées de Rabbeinu, d'accord, et marquer et faire des adaptations et dire voilà, je te vends du truc. Non, c'est les livres de Rabbeinu, uniquement les livres de Rabbeinu qu'il faut imprimer et diffuser. Et c'est ça qui va faire en sorte que l'hérésie, elle va s'effacer et elle va complètement être anéantie dans le monde et qui rapprochera la venue du Mashiach. Et on voit, Bémet, à quel point ces géants, d'accord, ces géants, ces Talmidim que Rabbi Israël et que même Rabbeinu, il a laissé, ne serait-ce que Rabbi Nathan, tout ce qu'il n'a pas souffert dans sa vie, tout ce qu'il n'a pas, toute cette abnégation de lui-même, cette abnégation de sa famille, de son être, tout ce qu'il n'a pas fait uniquement pour l'impression des livres. Et on voit que c'est ce qu'a, ça a continué. Et aujourd'hui, quand on voit Rabbi Israël, ce qu'il a légué à la finale, d'accord, son message, c'est justement imprimer des livres et diffuser des livres. C'est l'occupation majeure qu'on doit avoir aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'à la finale, c'est ce qui va emmener de la lumière dans le monde. C'est ce qui va repousser toute cette obscurité. C'est ce qui va faire que les mauvais décrets vont être annulés dans le monde et que le Mashiach, il va se dévoiler, que la lumière du tzaddik, elle va se dévoiler dans le monde. Donc, c'est pour ça que je répéterai jamais assez, parce que à l'image de Rabbi Israël, qui est mon maître, mais tout le temps, quand vous prenez ces livres, quels que soient les livres, ils répètent tout le temps. Et tu pourrais dire, mais c'est lourd, ils répètent toujours la même chose. Non, c'est pas qu'ils répètent la même chose, c'est parce qu'on le fait pas assez. Acheter des livres, distribuer des livres, n'aie pas peur. Achète un livre, mets-le dans une salle d'attente d'un médecin, comme si tu l'oubliais. Donne-le à une amie, offre-le à un étranger, dépose-le dans une salle dans un bureau, dans un hôpital. Vous ne pouvez pas imaginer, même si c'est des livres qui ne seront pas ouverts tout de suite, mais vous ne pouvez pas imaginer la lumière que ça fait rentrer dans la maison quand il y a des livres du tzaddik. Que ce soit en hébreu, que ce soit en français, l'homme est chané, mais vraiment, il faut insister là-dessus encore et encore et encore. Bevadai, c'est le tikkun haklali. D'abord, Rabbeinu, il parle. La première chose qui te parle dans Meshivat Nefesh, c'est l'importance des Teilim Bichlal. Que celui qui veut faire tshuva, mais le tikkun haklali l'englobe tout. Le tikkun haklali, c'est une Torah entière de Rabbeinu. Le tikkun haklali, si on savait ce que c'était, mais tout le monde ferait ça, du plus petit au plus grand. C'est l'apaisement de l'âme. C'est la régénération de l'âme, c'est le médicament de l'âme, c'est le médicament du corps, c'est la réparation du monde, de tout. Tu peux faire pour les autres, bien sûr. Le tikkun haklali, c'est quelque chose qu'il faut faire, qu'il faut inclure tous les jours dans sa vie. Tu peux pas passer comme ça ta vie sans faire le tikkun haklali. Fais-le en français, en anglais, en italien, en hébreu, en ce que tu veux, en phonétique. Mais tu dois t'appuyer et te dire, je dois faire le tikkun haklali. Et le tikkun haklali, il inclut tout. Donc ça, c'est sûr, inclut aussi le tikkun haklali. Quand vous avez un petit tikkun haklali que vous le distribuez, vous vous dites sûrement, et je le sais, parce que même moi, des fois, je me dis, mais tout le monde a des tikkun haklali. Mais ma'er pat la nous. Rabbi Israël,
mais les soldats, ils ont dit non, c'est étonnant
maintenant. Rabbi Israël disait une chose, d'accord ? Il faut inonder les copines, il faut inonder le monde de Sifrei Rabbeinu. pour celles qui ont la chance de voyager en Chutz Laaretz, si c'est pour du travail, si c'est pour des vacances.
En italien, il n'y a pas un livre de Rabbeinu, pas un.
Il y a, en italien, eh ben, tu devrais t'en occuper. Alors, je voudrais vous dire une chose. Pour toutes celles qui ont la chance de voyager en Chutz Laaretz, d'accord, c'est pas pour rien que vous partez en Chutz Laaretz. Bien sûr, c'est maquillé, ok. Hachem, il maquille vos voyages. Si c'est un bar mitzvah, si c'est pour des vacances, si c'est pour aller visiter des gens, on s'en fiche, n'importe quoi. Mais la vraie vérité, pourquoi vous partez en Chutz Laaretz? Pour inonder l'endroit de Sifrei Rabbeinu. Quand vous partez quelque part, n'hésitez pas à mettre dans vos valises des livres de Rabbeinu. Alors, je ne vous ai pas dit de remplir toute la valise, mais au moins une dizaine de livres, que vous ne soyez pas parti pour rien et que vous distribuez là où vous allez. C'est très important, c'est tout le message. Je vais mettre ça, c'est l'héritage de Rabbi Israël. Bien sûr que tu peux raconter, on est là pour ça. Parle fort juste si tu peux.
La semaine dernière, je dis, elle vient, elle me donne un tikkun haklali. Je dis, pourquoi tu me donnes des tikkun haklali? Ça va, j'ai pas besoin d'un prochain joli. Elle m'a dit, mets dans ton sac, c'est les tikkun haklali qu'on distribue aux soldats, ça va te protéger. Bon, moi je rentre chez moi, je prends l'ascenseur avec un jeune homme de 20 ans que j'avais jamais vu dans l'immeuble, qui va au même étage que moi en plus. Ken qui va, bon, alors qu'en face de chez moi, c'est pas le genre qui va. Et j'ouvre mon sac pour prendre mes clés. Je me dis, Kola Kavod. J'ai dit, bah tiens, je vais lui donner.
Kola Kavod.
Je lui ai donné. Il était vachement content. Il m'a dit, Toda Rabba et tout ça, machin. Et puis moi, je laisse passer. Dans l'après-midi, moi, je garde ma petite fille. Ma fille qui vient après avoir cherché les enfants à l'école. Elle est dans tous ses états. Elle me dit, tu sais pas ce qui s'est passé. Sa fille de 5 ans, elle est sortie de l'école. Elle s'est mise à traverser la rue en courant. Il y a une voiture qui a pilé devant elle. Pas parce qu'elle a freiné. C'est le système automatique de freinage qui a freiné. Oui, ça veut dire... Ouais. Et moi, je réfléchis à ça. Je dis, on va rocher, on va rocher. Et j'ai fait le lien pas tout de suite, tu sais.
On se rend, bien sûr, mais on ne sait pas. Bien sûr que ça peut, c'est sûr, on ne sait pas, on ne sait pas, Bémet, on ne sait pas à quel point le fait de distribuer un livre, d'offrir un livre, de distribuer un tikkun haklali, on ne sait pas à quel point. Et ça enlève, d'accord, ça enlève des rigueurs dans le monde pour les autres, mais pour nous aussi, bien évidemment. Quand tu fais, qu'est-ce qui a marqué? Quand tu fais de la tzedaka, offrir un livre à quelqu'un, c'est la plus grande tzedaka que tu vas lui faire.
Mais
on s'en fiche qu'il lise ou pas. Toi, il t'a dit Rabbeinu. Rabbeinu, c'est pas moi qui le dis, les copines. Rabbeinu, il a dit, d'accord, vous donnez mes livres, vous donnerez mes livres, même s'ils restent enfermés dans une armoire, c'est pas votre problème.
En tout cas, ça sera un bon moment de la librairie.
De la librairie. Alors, il faut comprendre. C'est par des livres, bien sûr, tous on est venus par des livres. Donc c'est important, Bémet, de prendre ça en compte et de dire à quel point, Bémet, on doit distribuer encore et encore.
Si on dit le tikkun haklali comme il répare de la faute, alors si on ne fait pas de faute, combien il fait des choses bien?
Encore plus. Nachon. Mais Suzy, il répare de la faute. Mais pour reprendre un peu ce qu'elle a dit tout à l'heure, quand toi tu fais un tikkun haklali, bien sûr que ça va réparer ton âme et ton corps, mais ça va réparer le monde. C'est-à-dire que même quelqu'un qui va te dire, mais moi j'ai rien à réparer ou j'ai pas de faute, ben mec, toi tu vas le faire parce qu'en le faisant, tu répares en réalité le monde. À chaque fois, c'est des réparations encore et encore et encore. Donc il faut jamais, jamais s'arrêter. Et ben mec, je vous dis et je vous répète, il a dit qu'il n'avait plus besoin. Parce que Rabbi Israël, il était déjà dans un autre monde. Plus que ça, Rabbi Israël, il a commencé à rapprocher et à se dévoiler quand il n'a plus aucun désir physique. Si c'est la nourriture, si c'est homme-femme, rien. Rabbi Israël, quand il voyait une femme ou un homme, c'était pareil pour lui. Il n'y avait rien. C'était, il avait plus, il vivait plus ici. Et c'est pour ça que je te dis, c'est incroyable, parce que quelque part, tu te dis, mince, on a connu un géant pareil. On a connu un géant pareil. Je reçois la maison. À l'époque, c'était ça, Rabbi Israël. Il tournait chez ses Talmidim, bien sûr. Et on a connu un géant pareil. Et en réalité, il était tellement... simple, et tellement il n'y avait rien, quoi, tu comprends, qu'on ne se rendait pas compte de ce qu'on avait, on ne se rendait pas compte. Plus nous, on vient de France, d'être mimimes, on ne comprend rien à notre vie. Donc, tu vois, nous, on était, voilà, Rabbi Israël, tu vois ce que je veux te dire, il n'y avait rien, quoi.
C'est pour ça que tu peux bien en parler, parce que tu l'as connu.
Oui, ben non, je crois que, je ne sais plus qui c'est qui m'a...
Moi aussi, je suis d'accord avec Valérie, t'en bien parles sûr, aussi. Ben oui. De tes entrailles, t'en parles, parce que ta robe, tu l'as connue.
Bien sûr.
Mais pourquoi ?
Et puis, t'as vu le visage du tzaddik. Mais en vrai.
C'est la vérité. C'est la vérité. Ouais, mais quand tu entends, Suzy parler de Rabbi Israël aussi, tu ressens l'amour. Il a des enfants, bien sûr. Il a des enfants.
Et toi, t'es en contact avec ses enfants ?
Non, on n'est plus. Moi, j'étais en contact avec Sipora. Sa fille, qui était une de ses filles, qui était très très proche, qui lui faisait souvent à manger. Ses enfants ont passé beaucoup 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 de souffrances du fait que leur père était Breslev. Et tu as jamais lu le livre Rabbi Israël, Shema Israël? Bon, je vais te l'offrir aujourd'hui, Bezrat Hashem. Tu vas le lire et tu vas comprendre ce que c'est pas. Ces enfants, ils ont passé. Donc ces enfants, c'est un grand grand inyan. Et c'est très difficile. Mais en tout cas, sa fille Tzipora, j'étais en contact avec elle. Et elle avait un amour et elle parlait de son père. Mais on sentait qu'il y avait beaucoup de choses qu'elle ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait pas dire, elle ne pouvait pas dévoiler. C'était très spécial. Et puis encore une fois, c'était des gens d'avant. Ça veut dire, ils étaient tout dans la simplicité, tout dans le... Il n'y avait pas d'honneur, il n'y avait pas de recherche d'honneur, il n'y avait pas de... Tu comprends ce que je veux te dire? Il n'y avait rien. Ils étaient habillés tout simplement. Ils avaient... Alors qu'ils auraient pu, s'ils voulaient. Hein. Tu sais, il y avait toujours, à la fin de la vie de Rabbi Israël, il y avait des gens qui venaient, qui... Rien qu'on on voulait tout lui donner à Rabbi Israël. Et il te disait, ben... Comment? Alors, à la fin de sa vie, d'abord Rabbi Israël était très méticuleux sur lui-même. Si tu vois les photos de Rabbi Israël, voilà. Si tu vois les photos de Rabbi Israël quand il était jeune et que sa femme, que ses enfants appelaient, il disait toujours, Tzipora me disait, ma mère, c'était une tzadékette. Et moi, je voulais savoir qu'est-ce que c'est être une tzadékette. Et je lui ai dit une fois, Tzipora, raconte-moi ta maman, c'était quoi, qu'est-ce qu'elle faisait. Et tu sais, je m'attendais qu'elle allait me raconter des histoires extraordinaires sur sa mère, que moi j'allais apprendre de ça. Mais c'est sûr que j'ai appris par contre. Alors, j'ai appris, c'est sûr que... Écoute, tu sais ce qu'elle m'a répondu? Tu sais ce qu'elle m'a répondu, Romy, Tzipora, Zichrona Livracha? Elle m'a dit... Ma mère, c'était une tzadékette. Elle meurt. J'ai dit, mais quoi? Elle m'a dit, ben, tu sais, elle reprisait nos vêtements. Elle préparait à manger avec ce qu'il y avait. C'était vraiment, comme tu dis, c'était une femme de maison. Tu comprends? Alors, tu pourrais dire, non. C'est ça, en réalité. Tu comprends? C'est ça, en réalité. C'est-à-dire, nous, on s'est complètement... C'était une échetraille et nous, on s'est complètement perdu. Donc,
c'est qu'à l'époque, l'échetraille s'énervait pas.
Alors je veux que tu saches, Romy, je veux que tu saches une chose. C'était des êtres humains comme toi et moi. Elle a passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrances. Beaucoup de souffrances. Encore une fois, je vous renvoie toutes au livre Shema Israël. C'est très important de le lire pour comprendre qui était Rabbi Israël. Mais je peux te dire qu'elle prenait énormément sur elle. D'accord? Ça veut dire que... C'était une force, Bémet, mais c'est grâce à ces femmes, que nous aussi, aujourd'hui, on peut tenir. Aujourd'hui, nous, on a toute l'impression qu'on ne tient pas, qu'on n'en peut plus, mais on est là, en tout cas. Ça veut dire, il faut comprendre, toutes ces imaot, toutes nos imaot, elles nous ont légué un héritage, d'accord, qu'on se lègue, entre guillemets, de mère en fille. On aurait pu dire aujourd'hui, oui, même si, ne, mais bien sûr,
ma
et
c'est,
plus tu avances, plus tu avances vers Mashiach, plus tu avances vers Mashiach et plus Bémet, les taux se resserrent. Vous voyez bien, on a tous ce sentiment d'étouffement où on sent que c'est la fin, que c'est très difficile. Et tu sais ce que c'est une femme quand elle accouche, pour celles qui ont accouché par les voies naturelles, sans la péridurale. Donc, moi, en tout cas, je peux vous en parler parce que je n'ai jamais fait de péridurale. À la fin, quand ça y est, tu n'en peux plus, tu dis, je ne veux plus. Ça y est, j'abandonne. Parce que c'est tellement des douleurs intenses, intenses que tu dis, je veux abandonner, j'en peux plus. Et donc, et qu'est-ce que le médecin te dit ? Non, la sage-femme, elle te dit, non, c'est maintenant. Et tu sais, tu prends les dernières forces et tu dis, allez, mais tu sens que c'est fini, tu es en train de partir. Mais ça, et on est bidouk là. Là, on a tous en train de dire, envie de dire, j'en peux plus, tu sais quoi, on veut plus, on abandonne, ça y est. Maman, j'ai tellement, tellement d'appels. Comment ? Ah ouais. C'est la dernière marche, bien sûr. Et Bémet, qu'on le ressent aujourd'hui. C'est-à-dire, là où tu, avec qui, toutes les personnes avec qui tu parles, tout le monde, tu sens, il est oppressé, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Donc, Bémet, que...
Il faut expulser ce bébé, voyons.
Il faut l'expulser, et je vous répète, alors, tu as raison, il faut l'expulser, et pour l'expulser, il faut distribuer des livres de Rabbeinu. Et Bémet, inonder le monde entier par la lumière du tzaddik. Alors, on va lire un petit peu, d'accord ? Donc, je me suis dit, qui voit de mieux ? Si Rabbi Israël, il a dit que Ishtaprut HaNefesh, c'est ce qui a fait de lui un juif, et c'est ce qui a fait que son cœur, Bémet, il s'est ramolli. Alors, Bémet, moi, je me suis dit, mais écoute, si Rabbi Israël, ça lui a fait tout cet effet, mais nous aussi, alors, ça va nous faire cet effet. Alors, j'ai dit, on va lire une petite... Il n'y a rien à expliquer, c'est très, très simple. Donc on va voir ce qu'il dit comme ça. Il y a marqué comme ça, dans le service de Dieu, l'idbo des doutes, donc tout le monde sait hein, ce que c'est l'idbo des doutes, hein, on est d'accord ici, c'est le parler à Hachem d'une manière simple dans sa langue. Alors l'idbo des doutes reste le plus haut niveau, supérieur à tout. C'est tellement simple que c'est très difficile à la finale. On peut parler des heures avec les copines, mais dès que tu dis l'idbo des doutes, c'est comme si tu as quelque chose qui vient bloquer. Bon, chaque jour, nous devons consacrer... une heure au minimum à méditer seul dans une pièce, ou mieux encore dans la nature, et pencher notre âme vers Hachem. Bon, alors c'est vrai que c'est une heure normalement qu'il faudrait faire, mais Rabbeinu, il nous a appris une chose quand même, il a dit un petit peu, c'est bien aussi. C'est-à-dire que si tu te fixes l'heure, si quelqu'un maintenant, elle va se dire, allez, j'y vais, je prends une heure, tu t'es fixé l'heure, tu es sûre et certaine que tu vas avoir toutes les forces du mal qui vont t'en empêcher, donc sois humble, d'accord ? Et dis-toi, bon, je ne vais pas faire une heure, je vais faire 5 minutes. 5 minutes, c'est bien, ça sera bebracha. Maintenant, si tu as fait plus que 5 minutes, eh ben bingo pour toi, tant mieux, tu vois. Laisse-toi aller. Mais en tout cas, commençons par 5 minutes. C'est toujours ça de gagner. Nous devons lui parler, le remercier, l'attendrir en utilisant des paroles de reconnaissance, de supplication et de louange. Nous devons lui demander et le supplier pour qu'il accepte. Regardez, ça, c'est très important. C'est-à-dire, si rien qu'on on arrive aujourd'hui à prendre cette parole-là que je vais continuer, d'accord, de dire, si on la prend avec nous, mais vraiment, je peux vous dire que vous aurez Mashiach, vous allez acquérir Mashiach en vous. Donc, je reprends. Donc, le remercier, l'attendrir en utilisant des paroles de reconnaissance, de supplication, de louange. Nous devons lui demander et le supplier pour qu'il accepte de nous rapprocher réellement de lui. On doit demander à Akadosh Baruch Hu et on doit le supplier pour qu'il accepte de nous rapprocher de lui. Qu'est-ce que tu veux ?
Je voulais ça. Est-ce que quand on fait ce que tu viens de lire, est-ce que si on pleure, s'il y a des larmes tellement qu'on le supplie, justement, est-ce que c'est valable ? Est-ce que
permis ? Parce qu'on pleure.
Est-ce qu'on pleure ? Voilà.
Alors, regarde.
S'il y a des larmes, des larmes de supplication.
Alors, regarde, je vais te dire quelque chose. Rabbeinu, il a beaucoup parlé.
Je sais qu'on aime pas.
Alors non. C'est important de pleurer aussi, mais il faut pas pleurer de tristesse. Et c'est fin comme un cheveu. Voilà, il y a le cœur brisé et il y a et il y a la tristesse. Le cœur brisé, la tristesse, c'est quand tu pleures sur ton passé. C'est que tu te plains sur tout ce qui a pu t'arriver, etc. Le cœur brisé à la finale, alors oui, il y a ce cœur comme ça qui est complètement... Parce que tu espères en réalité en l'avenir. Parce que tu demandes Bémet à Kadosh Baruch Hu, tu vois. Mais il faut beaucoup prier pour ça. Alors, mais bien sûr qu'il faut beaucoup prier pour ça aussi.
Mais il t'accepte et en plus il faut prier.
Bien sûr, pendant la tfila, Bevadai, la charé, charé de ma haute, afpam loninalou.
C'est
Bevadai de pleurer avec un cœur brisé, c'est très important. Et Bémet qu'on dit que charé de ma haute, afpam loninalou, c'est-à-dire les portes des larmes, d'accord, ne se ferment jamais. Donc, Amen.
C'est mieux de pleurer
Nachon qu'en dehors.
Il a dit, il ne faut pas que ça soit genre, je fasse une idée fixe là-dessus.
Nachon, il faut laisser venir.
C'est tout seul.
C'est ça le Inyan, la beauté de l'Idbo des doutes, c'est que justement, tu dois être dans la spontanéité, tu ne dois pas rechercher quelque chose. C'est comme quand tu vas chez Rabbeinu, où tu veux absolument pleurer parce que tu as été chez Rabbeinu. Ben non, si tu n'as rien ressenti, tu ne vas pas te forcer à ressentir. C'est pas possible. Il faut accepter avec humilité tout ça. Tout ça, c'est beaucoup d'humilité à la finale, tu comprends?
Non, mais quand t'es dans une détresse...
Oui, on est tous en détresse.
Non, mais quand t'as une détresse X,
ouais.
D'accord, et que tu pleures, tu vois pas, toi, la différence entre un pleur de tristesse qui te tire vers le bas ou un... Je vais te donner l'exemple. Il y a eu la maman de la petite soldate là, qui a été libérée. La vérité, on a toutes entendu cette fille-là. Et cette fille-là, elle est rentrée dans mon cœur.
Bien sûr.
Et elle m'a donné une leçon, Bémet, de comment elle a crié à Hachem, comment elle a crié à Abba. J'ai eu, Bémet, une leçon
magnifique.
De cette fille-là.
Bien sûr.
Et alors, elle est où, là, sa différence? Parce qu'elle pleurait beaucoup. Est-ce que c'était un cri de tristesse, un cri d'espoir, un cri de quoi?
Elle était en plein dans l'espoir. Elle était complètement, elle espérait complètement à Kadosh Baruch Hu. Tu comprends? Elle est Rabbeinu.
Elle s'est mise dans les mains d'Hachem et on l'a ressentie.
Complètement. Elle s'est annulée complètement. Et elle a espéré en Kadosh Baruch Hu. Et Baruch Hachem, tu comprends? Maintenant, encore une fois, les filles, je vous dis une chose. On peut pas, il faut pas essayer de dire je vais faire un copier-coller.
Non, sans faire.
Ça veut dire, nous d'abord, on doit demander à Kadosh Baruch Hu, vraiment d'une manière très très simple, lui dire Hachem. Bémet Hachem, donne-moi le mérite de te servir selon ta stricte volonté à toi. C'est très dur de servir Hachem selon sa volonté. Sa volonté à lui, pas ma volonté à moi.
Ouais, parce que
moi, je veux beaucoup de choses.
Ouais, c'est ça, on croit
moi,
que
je veux beaucoup
veut,
de choses.
C'est bien pour nous.
Mais à la finale, moi, je ne sais pas ce qu'Hachem y veut. Alors, quand moi, je viens maintenant et que je veux, tu vois, je suis là et je ne suis pas contente parce que ma vie ne se déroule pas comme je veux. Et je ne vous parle pas maintenant de ma vie matérielle et avec mes histoires. Je te parle vraiment d'une vie spirituelle, combien on voudrait servir Hachem, comment on veut prier, comment on veut faire Shabbat, comment on veut s'habiller, quoi. Mais à la finale, chacun il a son chemin et même la tefila, chacun il va arriver à son moment de tefila. Chacun il va arriver à ça, tu comprends? Alors oui, ça nous réveille, ça nous inspire. Mais après, tu vois, il faut dire Hachem, donne-moi le mérite de te parler sincèrement. Donne-moi le mérite, Bémet, de même si t'es quelqu'un de froid. Aujourd'hui, on est beaucoup d'entre nous, on est des gens froids. On est des gens, tu vois, on a les émotions, c'est complètement bloqué de par beaucoup notre enfance, qu'on a pu passer, les événements. Alors, il faut pas s'arrêter de demander, Bémet Hachem, d'avoir un cœur mamache quand on lui parle, comme tu vois, comme il a dit, il faut lui parler avec des supplications, des louanges, l'attendrir pour tout ça. Il faut avoir un cœur, tu comprends? Mais et nous, on doit demander Hachem, donne-moi un cœur, parce que mon cœur, Bémet. Que ce soit un cœur qui soit un cœur de juif, un cœur qui, où il n'y a pas justement tous ces coupures-là. Et il nous demande, et on lui dit qu'il accepte de nous rapprocher réellement de lui. Ça veut dire, on lui demande, Hachem, donne-moi ce mérite, Bémet, de te servir selon toi, ta volonté. Moi, je veux m'annuler complètement. Celui qui comprend ça, il va vivre Bessimcha en permanence.
Pourtant, il faut aussi exprimer ses volontés.
Tu as le droit de... toi, tu peux tout demander à Hachem. Tu peux tout demander. Mais tu es d'accord, Hana, qu'à la finale, le fin mot de l'histoire, c'est qui? C'est Boré Olam. Et il faut accepter la volonté d'Hachem. Tu comprends? Avec abnégation. Tout ce que tu veux, tu demandes. C'est ça qui est extraordinaire. Tu comprends? Tu dois tout demander à Hachem et c'est le seul qui peut recevoir toutes tes demandes, même les plus folles, les plus farfelues, sans se dire, mais elle est malade celle-là. Tu vois? C'est parce que lui, il sait. Chaque fois que tu parles avec Hachem, c'est Prinat Ruach HaKodesh. C'est ça l'Aïd Bo des doutes.
Je veux dire, en ce moment, on est quand même beaucoup perturbés.
Ouais.
On est quand même... je sais pas, moi, j'ai pas tellement des fois le cœur à faire...
Mais on t'a. Mais parle comme tu veux. C'est ça qui est beau, l'Aïd Bo des doutes. L'Aïd Bo des doutes, c'est justement ça, c'est cette spontanéité. C'est toute l'histoire de l'Aïd Bo des doutes, c'est ta spontanéité, justement. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est pas. Il y a encore. Regarde. Rappelez-vous ce qu'il a dit Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit Hachem et le tzaddik, c'est les seuls à être capable, quoi qu'il arrive dans ta vie, quoi que tu fasses, à toujours fixer ton point blanc. Ce point blanc qui va jamais, jamais, jamais ni s'obscurcir, ni se tacher, ni rien du tout. Tu comprends? Donc, Akadosh Baruch Hu, il a cette capacité, quand tu vas le voir, et que des fois, ben oui, ça explose, mais lui, il va dire, non, mais moi, je sais pourquoi elle est comme ça. Tu comprends ce que je veux te dire? Il va pas mal te juger, Hachem. Hachem, il va jamais mal nous juger. Il va toujours justement savoir comment arranger la chose. Et c'est ça, c'est pour ça que dans l'Aïd Bo des doutes, je vous dis, il faut pas faire un copier-coller quand des fois tu entends, on te dit, il faut faire ça et comme ça et comme ça. Et si on n'arrive pas.
Hachem, ça fait du bien aussi de parler à Hachem comme ça. Est-ce qu'on peut pas parler à quelqu'un d'autre?
Personne. Personne. Tu peux pas ouvrir ton cœur comme tu l'ouvres à Hachem. Personne n'est capable. Personne, il est capable d'écouter ce que ton cœur, il a. Personne, il est capable de supporter tes souffrances. Tu vois bien, on entend les souffrances de l'autre, on se sent mal. On n'est pas capable, on est une génération, on n'est plus capable. Quand tu entends la souffrance de l'autre, tu vas te sentir mal toi-même. Donc, il n'y a pas...
On a encore plus besoin de parler.
Et
on a encore plus besoin de parler.
Nahon, parce que... Donc c'est pour ça, il n'y a que la tefila. Rabbi Israël, il te disait, dans chaque chose, va prier, va prier, va prier. Parce qu'il n'y a pas comme l'Aïd Bo des doutes. Tu comprends? Et si on savait combien Kadosh Baruch Hu Bemet, quand tu lui parles, il est là avec toi. Il t'écoute, il te répond, il ne te laisse pas en disant, j'ai pas le temps pour celle-là, ou qu'est-ce qu'elle me demande, ou c'est insignifiant. C'est vrai, même maintenant, vous voyez, en réalité, moi souvent les gens ils me disent, oui, j'ai honte de te dire ça, parce que vu le matzav, non! Non, chacun, il est dans sa propre guerre aujourd'hui. Il y a une guerre mondiale. Mais pourquoi il y a une guerre aujourd'hui dans le monde? Parce que nous, on a la guerre en nous. Et tant que nous, on ne va pas enlever ces guerres qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, automatiquement, il y a la guerre à l'extérieur. Vous vous rappelez ce texte de Rabbeinu qui parlait, je ne sais plus où c'était, où il dit, quand il y a des querelles dans une maison, dans un couple, dans une famille, dans un immeuble, dans une rue, dans un quartier, dans une ville et dans le monde. Ça veut dire que c'est cette guerre qui est à l'extérieur, elle débute d'où? Qui c'est ces gens à la finale? C'est rien. Cette guerre, elle a commencé chez nous. Parce que nous, on a oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est d'accepter qu'il y a un Boré Olam, il a créé tout le monde, il y a tout qui a été créé par Hachem. Et toutes ces différences, elles sont voulues par Hachem. Et il ne faut pas se laisser attraper par aucune influence extérieure qui vient te dire « celui-là, il a raison, celui-là, il a tort, celui-là, il est comme ci, celui-là, il est comme ça. » Qui tu es, toi? Tu vois bien qu'ici, il te dit que... qu'est-ce qu'on doit lui demander? Et le supplier, qu'il accepte de nous rapprocher réellement de lui. Ça veut dire qu'il y en a, Béhémet, que tu vois à l'extérieur. Tu as l'impression qu'ils sont loin d'Hachem. Mais tu sais pas pourquoi ils sont loin d'Hachem, ceux-là. Puisqu'ici, on te dit, il faut qu'Hachem, il accepte de nous rapprocher réellement de lui. Donc, ça veut dire qu'il y en a, ils ne sont pas rapprochés d'Hachem. Pourquoi ? J'en sais rien.
Parce qu'Hachem, il ne veut pas.
Mais parce que...
Ils ne sont pas rapprochés, ils sont plus...
Non, mais... Je te parle des influences extérieures. Écoute, en général, qu'est-ce qui fait qu'il y a la guerre ? C'est les influences extérieures. Tu comprends ? La première chose qu'on dit à une jeune fille qui va se marier, d'accord ? On lui dit, regarde, tu vas avoir un ennemi numéro un et il faut que tu le connaisses. Parce que si tu ne le connais pas, tu vas te faire attraper. Parce qu'il y aura tout qui va venir maintenant te montrer que ton mari, c'est le plus naze des nazes. Alors, exactement. L'influence extérieure, c'est de savoir justement se protéger. Se protéger, c'est se rappeler tout ce que je vois, même quand je suis seule sur une île déserte. Tout ce que je vois, c'est une volonté divine. Tout ce qui existe autour de moi, c'est une volonté divine.
Ok, mais alors elle
donc tu es obligé d'accepter.
Oui, mais c'est où alors justement que tu dis à la Kala qu'il faut qu'elle se protège de l'influence extérieure si c'est une volonté divine.
L'influence extérieure.
C'est difficile de se protéger dans la maison.
L'influence extérieure, c'est de savoir justement que ce que Hachem il t'a mis en face de toi, donc le mari, d'accord, c'est sa volonté. Donc c'est avec ça que tu dois construire. Donc l'influence extérieure, ça peut être tout, ça peut être tes copines, ta mère, ton père, les journaux que tu vas acheter, qui vont te raconter toutes sortes de choses. Ça peut être mille et une choses. Tout ce qui est extérieur à toi et ton mari, c'est une influence extérieure qui peut venir et ternir, d'accord, l'intimité de ce couple. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui,
c'est dedans.
Bah oui. Bien sûr que les enfants, ça peut. Ouais. On n'a pas vu des enfants venir te mettre la panique dans ton couple.
Ah ouais, bah justement, je te pose la question. Je demande des fois,
Les filles, je veux vous dire quelque chose. Qu'est-ce qui a fait que le Ham Israël, d'accord, on s'est éloigné comme ça d'Hachem ? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette séparation ? C'est les influences extérieures. Quand on parle maintenant, d'accord, que. C'est Hachem et nous, on a aussi cette volonté de vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Tu comprends? C'est ça ton libre arbitre. C'est cette volonté de pas lâcher. C'est pour ça que quand il te dit pour qu'il accepte de nous rapprocher réellement, d'accord? Et il te dit ces paroles, il faut que tu puisses les dire dans ta langue maternelle. Ça veut dire avec ta manière à toi, comment tu vas t'exprimer.
On ne veut pas,
mais qu'est-ce qu'on peut faire? Que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on peut faire qu'il y a la galoute? On est aujourd'hui, d'accord, dans cet exil. Hachem, il est en galoute et nous, on est en galoute. Okay. Tu comprends? Hachem, il pleure sur ses enfants. Hachem, il pleure et il répète tous les jours. Venez, rentrez à la maison. Ça suffit d'aller regarder dehors. Ça suffit d'aller gambader. Ça suffit. Il pleure. Et nous, qu'est-ce qu'on lui dit? Non! On préfère la rue. On préfère les choses extérieures. Tu comprends?
Est-ce que c'est la même chose pour les
c'est vrai, en plus, ça.
Tout le monde. C'est vrai, hein. Tout le monde pleure.
Il y a quelque chose qui me surprend, là, avec ce qu'on vit. Il n'y a aucun rabbin de communauté des gens que je connais sur Paris qui ont, comme ne serait-ce qu'un début, de dire... Notre place est en Israël. Personne ne parle de ça.
Ils ne peuvent pas. Écoute, d'abord, je vais t'expliquer une chose. D'abord...
Encourager et aider ceux qui veulent.
Écoute, je vais te dire quelque chose. D'abord, c'est très difficile. Aujourd'hui, c'est, il faut avoir beaucoup de courage. Les filles, je veux vous dire quelque chose. Il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage aujourd'hui, d'accord, pour oser s'exprimer. Il faut... Et oser dire, j'ai peur, je ne sais pas quoi vous dire, je suis perdu. Moi aussi, le rabbin de la communauté, je suis perdu comme vous. Moi aussi,
hein? À ma connaissance, enfin, dans le 17e à Paris, personne.
Je connais pas les gens. Mais ce que je veux te dire, c'est que il faut beaucoup de courage, d'accord, pour dire, je suis perdu comme vous, je ne sais pas. On va tous prier et chacun il va trouver. C'est très dur. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Et puis bon, aussi...
Aujourd'hui, tellement il dit, ouais, il peut avoir la Emouna,
Et comment t'as pas la émouna, il faut être fort, et on y va.
De toute façon, la émouna, c'est très dur. Hein.
C'est...
Arrêtez de l'aider, déjà.
Bévadaï, on a notre chute, on a nos chutes et on a nos peurs et nos angoisses. Et tout ça, c'est un chemin. L'essentiel, c'est justement d'essayer de rester attaché à Hachem. Et même quand tu n'as pas de courage et que tu passes... Et je vais vous dire, vous avez oublié Rabbi Nachman, quand il a voyagé en terre d'Israël, tout ce qu'il a passé, lui aussi, à un moment donné, il n'arrivait même plus à dire un mot. Rabbeinu. Alors, tout ça pour t'apprendre que quoi? L'essentiel, c'est que même si tu peux tomber, même si tu lâches pas Hachem, on pose pas de questions, on sait pas. Tu comprends? Il faut essayer, Bémet, je pense qu'il faut essayer, Bémet, de faire son propre chemin. Je crois qu'on est à une génération où il n'y a plus de rabbins, il n'y a plus rien, ça ne sert à rien, c'est pas la peine. Tout le monde est paumé, eux-mêmes ils savent plus quoi faire, eux-mêmes ils ont plein de problèmes. Tu comprends? Tu veux quoi? Qu'on te à part de te dire écoute la prière, le tzaddik, oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on te donne aujourd'hui? N'importe qui, tu comprends? C'est tout.
Moi, je trouve qu'on est très bien conduite, Baruch Hashem,
en Israël.
Je trouve qu'on a plein de gens qui nous aspirent.
Baruch Hashem, ben tant mieux.
C'est très important qu'il y ait ces gens-là qui nous inspirent.
Et ben tant mieux.
Je trouve qu'on est très bien circonscrits.
Mais parce que Baruch Hashem, parce que toi, tu es bien entouré, Baruch Hashem.
Je suis bien entouré.
Baruch Hashem.
Nous, on a Rabbeinu déjà.
On a Rabbeinu en plus.
Rabbeinu, n'oubliez pas ce que. N'oubliez pas que Rabbeinu, il a dit qu'à la fin des temps, il n'y aura qu'une sorte de gens qui resteront stables. Parce qu'à la fin des temps, les gens vont courir de tous les côtés. Ils vont partir à droite et à gauche pour demander, d'accord, des conseils chez des rabbins que, je vous le répète, Bémet, lisez tout ce qu'il a dit Rabbi Israël.
Déjà, les rabbins des mensonges, là. Les
Mefursamim chez le Sheker. Des gens qui sont... Le mensonge des gens... Des dirigeants de mensonges. Des célébrités de mensonges. Donc, il faut savoir une chose, c'est que Rabbeinu, il avait dit qu'à la fin des temps, donc là, hein, on est vraiment des ratachem, il a dit, il n'y aura qu'une sorte de personnes qui vont rester stables et qui ne vont pas courir à droite et à gauche. Ce sera les gens qui font justement Itbo des doutes. Parce que quand tu fais Itbo des doutes, tu gardes quand même une certaine chfiout, comment on dit la chfiout en français, une certaine stabilité. Tu comprends, un esprit clair. Parce que tu te rends compte, même si tu dis « je vois rien », mais tu te rends compte, tu es abreuvé, que tu le veuilles ou pas, par des monstruosités, par des bêtises, par des trucs qui te font peur. Il n'y a personne qui te dit « tout va bien dans le monde ». Personne n'est capable de te dire que tout va bien dans le monde. Bien sûr que tout va bien, parce qu'on est justement dans un processus où un machar, il est en train d'arriver, donc tout va bien. Il faut juste avoir l'humilité. Il faut juste avoir cette humilité de dire, comme je ne comprends rien, moi je vois avec mes yeux des choses catastrophiques. C'est ma pauvreté d'esprit, mais en réalité, Akadosh Baruch Hu, croyez que quoi? Il a été pris par surprise, Hachem. Bon, bref. Alors, on va juste continuer. Je veux juste continuer une chose. Il dit comme ça, qu'est-ce que tu voulais dire?
Vas-y, dis.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Non, j'ai pas un zoom avec des gens, et donc il parlait, et moi j'avais pas du tout la même vision de ce qui se passait que eux ils avaient. Et enfin, j'ai tombé d'eau, quoi, parce que en fait, je dis, mais en fait, il y a plein d'États qui ont dit qu'Israël avait le droit de se défendre, qu'ils avaient le droit, etc. Mais on se focalise seulement sur des petits trucs comme ça, qui sont pas de la lumière, quoi. Et à force de se focaliser sur ce qui n'est pas de la lumière, et ben, quoi. Mais les gens n'ont pas cette vision-là.
On ne
voit que le côté noir de la chose.
Je vais te dire quelque chose, Bathsheba. Voilà. Il faut se rappeler que nous, on est la lumière du monde, on est le lampadaire du monde, d'accord ? Et que quand quelqu'un quelqu'un qui est, qui n'est pas, qui fait pas partie du peuple choisi, quelqu'un qui n'est pas l'enfant chéri d'Hachem, quand il se permet de venir te donner, d'accord, un conseil ou un ordre ou une idée, tu dois te poser la question, comment j'en suis arrivé là en fait? Tu comprends? C'est moi la lanterne du monde. C'est moi le point de lumière du monde. Et nous particulièrement en Israël. Alors, quand maintenant on se retrouve, d'accord, que quelqu'un de l'extérieur vient, une influence extérieure, elle ose venir te dire quelque chose, il faut juste que nous nous rappeler d'une chose. Il y a Akadosh Baruch Hu, et c'est Hachem qui a créé cette histoire. C'est Hachem qui veut cette histoire.
Quand je t'aurais dit ça,
oui, bien sûr, on est des fous. C'est pas grave, on est des fous.
Mais ça, est-ce que ça sert des fois de dire, de parler?
Alors, Rabbi Israël, Rabbi Israël.
Voilà, elle répond. Elle répond.
Rabbi Israël, il a, Rabbeinu, il a dit. Rabbeinu, il a dit. Rabbeinu, il a dit une chose. Rabbeinu, il a dit une chose, d'accord. C'est que il faut aussi savoir quand parler et avec qui parler. C'est pour ça que tout doit passer par la tefila, parce que même quand tu vas parler avec quelqu'un, d'accord, qui peut même te ressembler dans tes idées, quelqu'un qui peut te ressembler dans tes idées, ou même quelqu'un qui te ressemble pas dans tes idées. Tous les jours, on doit, mamash, demander à Hachem, lui dire, Ribono Shalolam, aide-moi à ce que chaque parole que je vais pouvoir dire, ce soit ta volonté. Que ce soit ta volonté à toi, que mes paroles, elles trouvent grâce aux yeux des personnes, et que je ne dise pas une parole en plus, ou une parole en moins. Mais ça demande beaucoup, beaucoup d'humilité. Je veux juste avancer 2 minutes. Il dit comme ça, ils font donc parler avec sa langue maternelle. Et il pose la question, pourquoi la langue maternelle? Parce que l'utilisation de la langue sainte est pour certains difficile. C'est-à-dire que pour ceux qui ne parlent pas en réalité l'hébreu, tu ne vas pas parler avec ton cœur, donc tu vas pas dire véritablement ce que tu recherches. De plus, nous avons du mal à nous identifier aux paroles que nous ne sommes pas habitués à prononcer. Par contre, lorsque l'on s'exprime dans sa langue maternelle, on le fait naturellement. Et il sera ainsi plus facile d'ouvrir son cœur. L'homme s'attache au langage qui lui est familier. Il peut ainsi exprimer ses pensées les plus intimes, celles qu'il ressent au plus profond de son être. Il racontera à Dieu ses regrets, ses mauvais actes passés. Il formulera des demandes et des supplications qui lui permettront à partir de ce jour de se rapprocher sincèrement d'Hachem. Chacun agira selon le désir de s'amender réellement ou pas. Bon, ça veut dire que dans l'Aïdbeau des doutes, là, il te dit quoi, en fait? Il te dit, chacun, déjà, tu dois parler dans ta langue. C'est-à-dire quoi, dans ta langue? Avec ta manière de parler aussi. Chacun, il a sa manière de s'exprimer. Il y a des personnes, quand elles parlent, elles parlent avec un langage châtié. Il y en a d'autres, elles parlent avec un langage très simple. Chacun, comment il parle, comment il a l'habitude de parler. Et c'est ça qui va créer justement ce lien très, très, très intime entre toi et Akadosh Baruch Hu, et qui va faire que l'amour que tu dois avoir pour Hachem, il va grandir au fur et à mesure. Parce que tu ne peux pas dire « j'aime Hachem » si tu n'as aucun lien avec lui. Si tu ne parles pas, il ne peut pas y avoir un lien. C'est impossible, tu es obligé de développer ce lien. C'est-à-dire qu'il y a un lien, on va dire, inhérent en nous, parce qu'on est une partie d'Hachem et parce qu'on nous a insufflé ça. Mais si tu n'étoffes pas ce lien, si tu ne l'étoffes pas au jour le jour, et que justement tu ne viens pas lui dire « aujourd'hui il y a ça, et demain il y a comme ça, et aujourd'hui je me sens comme ci et comme ça », mais en réalité c'est un lien quoi? Superficiel. C'est un lien presque, tu sais, de courtoisie. Mais Hachem, lui, te dit, mais écoute, la courtoisie, j'en veux pas, moi. Moi, je veux de l'intimité. Moi, je veux une vraie intimité entre toi et moi. Je veux véritablement ressentir, d'accord, que quand tu me parles, en réalité, c'est, il n'y a pas de limite, il n'y a rien. C'est tout ce que tu as au plus profond de toi. Mais ça, c'est un travail qui va prendre des années. Parce que même toi, en réalité, t'es bloqué, 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 bloqué. On ne se rend même pas compte combien de blocages on a. pour arriver à sortir un son, pour arriver à sortir une parole sincère, pour arriver à sortir une vraiment quelque chose, ça veut dire quelque chose que tu as dans les parois de ton cœur, que tu as au fond de tes tripes. Tout ça, c'est un travail. Et il faut faire ce travail. Rabbeinu, il te dit, ça, c'est la plus haute forme du service divin. Si tu comprends ça, mais que tu comprends surtout que ta demande principale, à la finale, c'est qu'il accepte de te rapprocher réellement de lui. Et tant que Akadosh Baruch Hu n'a pas accepté, alors tu dois baisser ta tête avec humilité et attendre. Attendre, c'est aussi faire preuve de émouna. Savoir attendre, savoir faire le chef d'altacé, ça veut dire attendre et être patiente. Et en attendant, essayer. En attendant, se renforcer. En attendant, ça veut dire tenir bon, d'accord, pour pas justement se rebeller, pour pas tomber dans l'hérésie, pour pas tomber dans la colère, pour pas tomber tout simplement. C'est une attente, et c'est une attente qui peut être des fois très très longue. Mais Rabbeinu, il nous a dit quoi ? Aïkar, les languissements. Aïkar, justement, ces soupirs. Aïkar, cette volonté. Tu veux te renforcer. Donc, tous les jours, tu dis, je veux, Hachem, me rapprocher de toi. Je veux me rapprocher. Mais je te demande que toi, tu vas m'ouvrir la porte. C'est Boré Olam qui t'ouvre la porte à la finale. Et en attendant, eh ben, tu attends. Tu attends jusqu'à que Boré Olam, il va dire, tu ouvres. C'est tout ce qu'il faut faire. Alors, Bezrat Hachem, qu'aujourd'hui, si Dieu veut, ce soir, d'abord, j'espère vraiment vous voir toutes à la Hiloula de Rabbi Israël. Je veux que vous sachiez une chose, c'est très, très important. Je le dirai ce soir, mais je le dis pour celles qui peut-être ne viendront pas. Il a fallu beaucoup, beaucoup de courage pour organiser cette Hiloula, croyez-moi, parce que ça demande de la hazout, de l'audace. C'est de l'audace, malgré la situation qu'il y a aujourd'hui, de venir et de dire, on va briser justement ce Yetzer Hara qui veut nous mettre dans la tristesse. On va taper des mains, on va, Bezrat Hashem, on va pas danser ni pour faire les belles, ni pour genre kiffer, non. On va danser uniquement pour nos Chayalim, on va danser les Shem Shamaim pour la gloire d'Hashem, et parce que justement on garde cette émouna. Donc Bémet, je vous dis, autant ça a été très dur de la faire, personne ne peut imaginer ce qu'on a passé pour faire cette Hiloula. C'est inracontable. Maman, je ne peux même pas raconter ce qu'on a passé. Mais en tout cas, je tiens vraiment à vous dire que autant ça a été très dur et on n'y est pas encore arrivé, autant je sais qu'il y aura beaucoup de délivrance grâce à cette soirée. Bezrat Hashem. Donc, pour celles qui ne se sont pas encore décidées, ayez cette audace, vous aussi. Dites-vous, tu sais quoi, je m'en fiche, j'y vais. Hashem, il me protège. Bezrat Hashem, vous venez, on va danser, on va parler de Rabbi Israël, Bezrat Hashem, et le mérite de Rabbi Israël. Et il y aura vraiment, j'en suis sûre et certaine, beaucoup, beaucoup, beaucoup de décrets qui vont être complètement, Bezrat Hashem, annulés, si Dieu veut. Amen. Bezrat Hashem, si Dieu veut. Alors, en tout cas, celles qui ne peuvent pas venir, allumez chez vous le nerf de Rabbi Israël, mettez un peu de musique et vous dansez, même si vous êtes toute seule à la maison. Dansez dans votre maison, lisez un petit peu un livre de Rabbi Israël, parlez-lui, demandez-lui, Bémet, de vous ouvrir toutes les portes, Bezrat Hashem, celles qui ont le mérite. Pas ce soir, s'il vous plaît, parce que ce soir, c'est les hommes. Celles qui ont le mérite et la possibilité, demain matin, d'aller chez Rabbi Israël, même très tôt ou dans la journée, vous avez jusqu'à demain, avant Shkia. N'hésitez pas à y aller pour Bezrat Hashem. Vous recueillir sur la tombe de Rabbi Israël, Bezrat Hashem. Voilà. À la semaine prochaine, si Dieu veut. Nanach. Nanach.